Malgré une définition floue, Pierre Gallereau, responsable de l'action culturelle de l'ensemble intercontemporain, nous a permis d'y voir un peu plus clair sur le profil du métier, avec notamment l'idée que chaque projet, chaque lieu, chaque public nécessitait un accompagnement personnalisé. C'est désormais au tour d'Arnaud Julien de nous partager son expérience en tant que chargé du pôle transmission du GMEM. Alors bonjour Arnaud, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Arnaud Julien, je suis chargé du pôle transmission au GMEM à Marseille. Donc ça recouvre tout un tas d'actions pédagogiques, des ateliers, des sessions d'écoute, des workshops, avec différents types de publics. Donc moi je travaille avec des scolaires, des étudiants, des structures sociales, etc. etc.
C'est quoi pour toi le métier de chargé du pôle transmission ?
Pour moi c'est un métier d'entremetteur, de traducteur entre différents publics, et aussi beaucoup de conception et coordination d'actions pédagogiques autour d'une pratique artistique. Le responsable de l'action culturelle, ou le chargé de transmission en l'occurrence, pour moi c'est le trait d'union entre des artistes et différents types de publics qui vont manifester une envie de découverte ou une curiosité autour de pratiques artistiques. Plus précisément, mon rôle par rapport à ça, ça va être de conseiller les artistes sur leurs propositions pédagogiques et en essayant d'adapter au maximum leurs propositions aux partenaires avec qui on va travailler. Que ce soit des enseignants, des responsables de structures sociales, des animateurs, voilà, peu importe.
Quelles seraient, pour toi, les trois qualités ou compétences que tu estimes indispensables pour faire ce métier ?
Je pense que pour ce métier, il faut pouvoir avoir une grande curiosité et une ouverture d'esprit, de la disponibilité et aussi une capacité d'écoute et d'attention à la personne. En dehors de ça, je trouve qu'être musicien, s'intéresser à la musique, voire être passionné par ça, c'est un gros plus parce que c'est toujours plus agréable de discuter avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font.
On est tous d'accord sur le fait que la médiation, c'est primordial. Pourquoi est-ce que, pour toi, la médiation, c'est important ?
De mon point de vue, la médiation, c'est super important parce que tout le monde n'est pas forcément à un moment de sa vie en lien avec un artiste et c'est pas toujours évident non plus de deviner leur démarche et savoir comment ils travaillent. Pour moi, c'est aussi important dans un souci de mémoire des pratiques artistiques. Il y a une question d'ouverture individuelle, c'est sûr, mais c'est aussi les publics qui vont faire vivre les œuvres en les pratiquant, en s'y intéressant, en en parlant à d'autres personnes ou en les découvrant. La médiation, ça permet aussi aux personnes d'expérimenter des processus artistiques de création. Et donc, ces démarches-là, elles peuvent devenir, ou non, ça c'est propre à chacun, des espaces pour imaginer, rêver, surtout s'extraire de nos obligations quotidiennes et s'extraire pendant un temps de son système. Ça peut avoir un côté très libérateur et très agréable. Et aussi, parfois, les projets artistiques qui vont re-questionner l'intériorité des gens, des faits de société. Donc, c'est connecté aussi à cette question-là. Avec la musique, c'est aussi entrer dans une démarche de recherche autour du son. Pour nos esthétiques, c'est souvent fait avec des sons de la vie de tous les jours ou avec des sons de son propre corps. Donc ça veut dire que c'est possible pour tout le monde et petit à petit, on peut s'entraîner à percevoir d'autres choses à l'intérieur de tout ça.
Chargé de la transmission, responsable de l'action culturelle, chargé de médiation, pourquoi est-ce qu'on ne trouve jamais le même nom de poste ?
De mon point de vue, ces termes, même s'ils représentent des pratiques qui se ressemblent, ça représente aussi, ça recouvre aussi très souvent des pratiques complètement différentes. La place que va occuper la médiation dans les structures, sur quoi les rencontres ou actions vont se construire, si la structure a un lieu dédié pour ça ou non, et surtout les types aussi de publics avec qui on va être amené à travailler. Toutes ces variables-là, ça change complètement en fait la manière dont on va occuper ces types de postes. Je crois aussi que le grand nombre de termes pour désigner ce type de travail, c'est une réponse qui peut paraître insuffisante à la grande variété de la façon d'exercer ces métiers en poste. Je trouve aussi que ces termes, ça devient un peu maintenant des fourre-tout pour parler de tout un tas de choses différentes, de création, d'action pédagogique, de médiation, de démarchage de public spécifique. Et c'est vrai qu'il en faudrait un précis et spécifique presque pour chaque poste pour pouvoir en cerner complètement la réalité en fait.
Quel a été ton parcours jusqu'à devenir chargé du pôle transmission au GMEM ?
Dans le cadre du master en médiation culturelle que j'ai fait à Tours en 2017-2018, j'ai été pris en stage de 4 mois au service production du GMEM. À la fin de mon stage, en fait, j'ai dû réaliser un mémoire pour mon master que j'ai fait sur la transmission des musiques contemporaines et la direction a décidé de me recontacter en juillet 2018 pour me proposer le poste que j'occupe actuellement, qui était vacant à l'époque.
Comment est-ce que tu construis un projet de médiation avec les structures, les partenaires, les artistes et les publics ?
selon le cas de figure, soit c'est des partenaires qui vont m'approcher avec le souhait de faire un projet avec nous, soit c'est moi qui vais prospecter des structures pour faire un projet avec eux, ou imaginer des actions de médiation sur des résidences qui se passent au GMEM ou des spectacles qui existent déjà. Suite à ça, généralement, je fais un rendez-vous avec eux pour essayer de mieux comprendre leurs envies en tant que structure déjà, mais aussi par rapport au public qui souhaite que nous accompagnions. Après, j'écris un projet en fait orienté sur une esthétique ou une pratique en particulier, et je commence à chercher un artiste dont je pense qu'il pourrait faire l'affaire pour ce type de projet-là. Le contenu que j'écris, après, c'est surtout quelque chose pour que le partenaire ait une base de projet. Et après, l'artiste, il accepte, a vraiment une complète liberté là-dedans pour décider ce qu'il veut faire, lui, quoi.
Quelle relation est-ce que tu entretiens avec les artistes ou vis-à-vis des publics ?
Par rapport aux artistes, j'essaie d'être accompagnant, de les mettre en confiance sur leurs propositions, parce que tous les artistes n'ont pas l'habitude de faire ça. Mon travail aussi, ça va être d'essayer de leur expliquer au mieux les réalités des structures avec lesquelles ils vont travailler pour qu'on puisse adapter ensemble le projet. Mais là-dedans, il faut toujours garder de la nuance par rapport à eux, parce que l'idée, c'est quand même qu'ils puissent avoir de la liberté de se situer à l'endroit où ils veulent intervenir. Pour les publics, j'accompagne des adultes partenaires dans la découverte de nos structures. Et je dialogue beaucoup avec eux en amont de faire les projets. Après, pour ce qui concerne les scolaires, les étudiants, les publics de centres sociaux, j'interviens assez souvent sur des temps plus ou moins longs d'ateliers pour faire de la médiation. Et l'idée, là, ça va être de contextualiser les choses, d'essayer de prendre leurs ressentis et leurs envies par rapport à ça pour instaurer un rapport de confiance et faciliter leur réception à nos projets.
Est-ce que tu pourrais nous parler du projet dont tu es le plus fier ? Ou même, au contraire, le moins fier.
Alors, je vais plutôt vous parler du projet dont je suis le plus fier. C'est un projet qui s'appelait Les Pupites de la Caillole. Donc, c'était un premier projet de territoire que j'ai fait au GMEM en 2019, qui était sur le 9e arrondissement de Marseille. Et en fait, le principe de ce projet, c'était de créer sur ce territoire-là un orchestre participatif et assez singulier, puisqu'il était composé de violons, de voix et aussi de percussions de récupération. Donc, il y avait des bouteilles, des bouchons, des instruments fabriqués. On a travaillé avec le compositeur Maël Bailly et une autrice de fiction qui s'appelle Catel Guillou. Et on a présenté un spectacle qui est devenu un conte musical au Festival Les Musiques en 2019 à Marseille. Donc c'est un super souvenir pour moi parce que c'était vraiment un spectacle de très bonne qualité et c'est super aussi de travailler avec les enfants. Donc, voilà.
Est-ce que tu peux nous parler d'une œuvre qui t'a marqué ?
Côté musique actuelle, moi je suis assez fan du groupe Radiohead et notamment de leur album King of Limbs, mais dans la version qui est faite en live dans l'émission From the Basement, qui est une émission du coup, qui accueille des artistes qui jouent leur album en live en studio. Et après, côté musique contemporaine, j'ai eu l'occasion de chanter il y a quelques années le 12e psaume de repentance de Alfred Schnittke, qui est un compositeur russe-allemand. C'est une pièce vocale à 12 voix qui est toute écrite en bouche fermée. Et donc, il y a vraiment une atmosphère et une écriture quasi contrapuntique qui est vraiment magnifique, quoi, je trouve. Et après, au-delà de ça, j'ai découvert en travaillant au GMEM le travail de Fausto Romitelli. Je trouve que ces pièces voilà, sont vraiment super intéressantes et elles font aussi appel à des pratiques des musiques actuelles.
Et du coup, toi, tu écoutais quoi quand tu étais petit ?
Comme beaucoup de gens, je pense, j'écoutais ce que mes parents écoutaient. Donc, c'était de la variété française à l'époque, donc des choses du genre Alain Souchon, Maxime Le Forestier, des choses comme ça. Et après, à l'adolescence, je me suis plutôt tourné vers le rock britannique, en suivant mes frères aînés notamment. Après, au-delà de ça, comme on avait tous une pratique musicale assez jeune, puisqu'on faisait du piano, je pense que j'ai quand même pas mal écouté, jeune, des pièces pour piano classique, notamment.
Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait faire ce métier ?
De se lancer. Je trouve que c'est un métier qui est au contact de plein de types de personnes différentes et qui est super riche et porteur de connaissances. Peut-être d'être à l'écoute au maximum de l'autre et dans une compréhension assez fine des artistes et des publics avec qui on travaille. Je pense que c'est important aussi au maximum de servir de ses propres connaissances et compétences autour de la discipline sur laquelle on travaille. Au maximum faire des passerelles entre les pratiques et les disciplines. Et aussi, je trouve accepter que parfois on peut être nous-mêmes l'objet de la médiation sur des pratiques artistiques que l'on saisit moins. Et que c'est aussi une énorme richesse en fait pour pouvoir les transmettre à d'autres personnes une fois qu'on a soi-même appris à dépasser ses propres questionnements. En fait.
En fonction de la place accordée au sein des structures, La personne en charge de la médiation est plus ou moins un ou une intermédiaire, un traducteur ou une traductrice, qui se place entre l'artiste et les publics. Cette personne n'est en aucun cas prescriptrice. Le tout se résume à un savant mélange de mise en relation de personnes, mais aussi d'expériences. Travailler dans la médiation, c'est d'abord s'interroger sur les raisons de ses actions et sur l'écoute des personnes que l'on interpelle. Pour aller plus loin, découvrez les fiches papiers consacrées aux intervenants et intervenantes de ce podcast sur le site monprojetmusique.fr et écoutez les autres épisodes de cette série dédiés aux métiers de la musique.